Chacune, chacun sait à quel point il peut être ardu de vivre et de décider ensemble. Combien la tentation de l'égoïsme peut être forte, comme il est difficile d'accueillir, de partager, d'accepter les différences. De grandes femmes et de grands hommes éclairés par des mois, des années, des décennies, des siècles peut-être de ténèbres et d'horreurs nous ont doté fort heureusement de projets et de textes qui peuvent s'avérer bien utiles. Ce sont mes phares dans la nuit qui tombent aujourd'hui sur l'Europe et le monde. Article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Il y a quelques jours, France Média Monde, la maison mère de RFI, a lancé, grâce à un financement européen, un site d'information multilingue dédié aux migrants, infomigrants.net. Il en a été question sur ces antennes. Pour saluer ce nouveau venu, nous avons choisi, avec l'équipe d'Infomigrants, de produire un sujet commun.
L'atelier des médias, Ziad Malouf.
Bonjour, je suis Leslie Carretero et je travaille pour RFI depuis maintenant 6 ans. Et aujourd'hui, je collabore pour le site Infomigrants.
Et Leslie, c'est avec toi que nous ouvrons l'émission aujourd'hui.
Plus précisément avec Aboubakar Sidibé. C'est un Malien de 32 ans qui a été bloqué pendant plusieurs mois sur le mont Gourougou au Maroc, un mont qui surplombe l'enclave espagnole de Melilla. Depuis la fin des années 90, cette terre est séparée du Maroc par un mur de grillage et de barbelés de 12 km de long. Cette clôture est célèbre pour les nombreux assauts de migrants qui tentent de passer en Europe. Ils ont d'ailleurs été plus d'une dizaine de milliers à essayer d'emprunter cette voie.
Aboubakar Sidibé a quitté le Mali en octobre 2011 après des mois de voyage entre le Niger, l'Algérie et le Maroc. Il est donc arrivé au mont Gourougou en septembre 2013. Près d'un an plus tard, sa vie bascule grâce à l'initiative de deux réalisateurs allemands, Maurice Sieber et Stefan Wagner, qui ont pour projet de faire un film différent sur les migrants et donc sur le mont Gourougou.
Aboubakar et Stefan ont accepté de revenir sur cette aventure pour Infomigrants et l'atelier des médias RFI.
Vous savez, c'est une histoire très longue et tout a commencé quand, après la tentative du 18 mars 2014, où 600 personnes sont rentrées, et ce jour-là, j'y étais et j'ai participé à l'assaut, mais je n'ai pas eu la chance de rentrer parce que je suis tombé sur la première barrière en haut. Non, de la première barrière, je me suis blessé. Donc, on m'a amené à l'hôpital, j'ai été soigné et après, on m'a jeté à Rabat. C'est en ce moment que, comme cet assaut a été médiatisé partout en Europe, et donc, Maurice et Stéphane, donc, je ne sais pas comment ils ont entendu cela. Donc, c'est à travers ça qu'ils se sont mobilisés pour avoir quelque chose sur Gourougou. Donc, comment faire? Ils sont rentrés en contact avec un photographe espagnol qui s'appelle Biggie, qui avait l'habitude de venir nous voir, de venir nous aider, de nous envoyer des journalistes qui voulaient filmer. Lui, il était en quelque sorte comme un correspondant des journalistes entre Gourougou et les Européens. Donc, c'est comme ça que Biggie, il m'a appelé, il m'a dit que, OK, Abou, j'ai un travail très important pour toi. Et ce travail, ça concerne de filmer ta vie et la vie des frères à Gourougou. On m'a dit bah, donc, que ces deux cinéastes sont allemands et danois. Donc, ils ont envie de filmer. J'ai dit OK. Donc, je leur ai demandé est-ce qu'ils vont me payer. Big a dit certainement oui, qu'ils vont me payer. Ils vont me donner de l'argent chaque semaine. C'était 20 euros. Et comme c'était deux caméras, en tout, c'était 40 euros par semaine. Après, notre première chose a été d'avoir les caméras et essayer de filmer.
Oui, c'est le joueur de la Côte d'Ivoire, l'attaquant Wayne Rooney, donc qui est en train de faire le jonglage. Donc, je pense qu'il est prêt. Il est prêt pour ce soir à 4 heures.
Voilà, ouais.
Votre manager, c'est lui.
Ouais, notre coach. Ouais.
Manager puissant.
Le match de ce soir,
ouais,
sera un match très tendu.
Quand on a commencé à travailler sur l'idée originale du film, c'était clair
que ce n'était pas le premier film sur le thème migratoire.
Lui, c'est Estéphane Wagner, co-réalisateur du film Les Sauteurs, sorti il y a 10 jours, un film issu de ce projet.
Alors, on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire pour rajouter quelque chose de nouvel, un thème qui, voilà, c'est quand même bien connu. Et on avait fait une grande recherche, on a vu plein de films, de reportages, et on remarquait que presque toujours, il manquait une chose. Tous les films, tous les reportages partaient d'une position du pouvoir. Nous, on était au pouvoir et on regardait sur eux qui n'avaient pas de pouvoir. Dans le meilleur des cas, on était presque dans le même pouvoir. On parlait avec eux, pas sur eux, mais avec eux. Mais la chose que nous voulons faire, c'était de faire un film où ce n'était pas nous qui parlons sur eux, mais eux qui peuvent parler à nous.
La montagne du Gourougou, la fameuse, la sainte, la divine, l'espoir et le désespoir, la vie ainsi que la mort, c'est un nouveau monde.
Alors, il faut donner le pouvoir à notre protagoniste. C'était un expériment de, je pourrais dire, un expériment de démocratisation. Le mot « empowerment » en anglais, donner le pouvoir, un expériment d'empouvoirment. Et on se disait, si on donne la caméra à quelqu'un qui va être notre protagoniste, on ne savait pas que ce serait Abou. Et si on n'est pas présente quand il filme, et si en plus, quand on fait le montage, on essaye de toujours être très proche de la réalité, de la véracité de la situation, de se rappeler, ce n'est pas un film où il faut créer des situations pour qu'on sente quelque chose qui n'existe pas. On voulait toujours que ça que l'audience voit, c'est le plus proche possible à la réalité.
Ça fait 15 mois que je vis à Gourougou. Je ne sais plus combien de fois j'ai sauté la barrière. Il y a un mois que Maurice et Stéphane sont venus à Gourougou. Ils m'ont demandé si je voulais faire un film sur ma vie dans la forêt. Ils m'ont donné une caméra. Bien évidemment, au début, l'argent qu'ils m'ont donné a joué un rôle important pour que je ne vende pas la caméra tout de suite. Mais je voulais aussi enregistrer ce qui se passe ici. Cela m'a motivé.
Quand Biggie m'a envoyé la caméra, donc j'ai dit, OK, moi je ne comprends rien, c'est ma première fois d'utiliser la caméra. J'avais l'habitude d'utiliser le téléphone portable pour filmer. Tout ça. Donc, c'est comme ça. J'ai dit, OK, je vais filmer. Quand je vais finir de filmer, je vais l'envoyer les cartes mémoire. Donc, ils vont voir si les images sont bonnes ou pas. Donc, ils verront donc, si on va continuer ou pas. Au début, je n'étais pas très motivé par le fait de faire un film. Non, j'étais motivé par les 40 euros qu'on me donnait par chaque fin de semaine. Et j'ai réalisé que oui, la motivation est encore plus grande. Ça dépasse les limites de l'argent. Donc, ça m'a demandé de l'amour, ça m'a demandé d'avoir de l'amour pour ce que je suis en train de faire. De me focaliser, de me concentrer donc, sur la caméra et de faire un bon travail.
Le futur Benguis.
Le futur Benguis. Ouais.
Bientôt, j'irai en Europe.
Bah, tu peux replier ouais. Un peu, tu peux pousser derrière un peu, ça va me faire plaisir.
Bientôt, je vais aller en Europe.
Ah, oui.
Non, le zoom, tu laisses le zoom.
Non, le zoom est laissé, oui.
On a donné la caméra. Au début, à plusieurs migrants, et dès quelques semaines, on a réalisé qu'Abou, c'est vraiment le mieux. Il avait plusieurs raisons pourquoi. Alors, il avait vécu sur la montagne déjà un an. Alors, il connaissait les gens et tout le monde l'avait confiance. Aussi, on avait une très bonne relation avec lui, une relation de confiance. Et en plus, on a trouvé quelque chose dans ses images qui était vraiment spectaculaire. Il avait une chose poétique et subtile qu'on n'avait pas imaginé de recevoir. Par exemple, il y a une scène où il y a un petit âne qui court pour la montagne. C'est une situation vraiment très poétique. C'est plutôt une expression de l'âme où on peut voir comment il a la joie de se sentir libre, de courir, de croiser la frontière. Et je ne comprends pas cette frontière. Et Anan ne comprend pas des frontières non plus. Alors il y a une métaphore là que je trouve sublime.
Ça, on bosse la magie de l'Afrique. Hein. C'est la tête qui travaille.
C'est pris.
Que l'Espagne veut que je parle pour moi et 20 jours en Europe. Qui en Europe? C'est simple, hein?
Ouais. À Gorogo, déjà, vous savez, quand vous avez la caméra en train de filmer, vous racontez quelque chose de très, très sensible. Vous racontez quelque chose de très, très réel. Vous racontez votre vie dans les images, à travers les images. Donc c'est ça qui m'a poussé à dire, je sens que j'existe quand je filme. Quand j'étais en train de filmer, je voyais les réalités sur un petit écran qui me donnait encore énormément d'envie pour exister et raconter à d'autres, aux personnes qui n'ont jamais été là, aux personnes qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, qui ne savent rien de ce qui se passe ici. C'est tout ça qui m'a permis à dire oui. J'existe quand je filme.
Quand on regarde le monde au travers d'une caméra, on commence à percevoir l'entourage différemment. J'ai commencé à prendre plaisir à la création d'images. Lentement, j'y ai trouvé de la beauté. Elles ont un sens pour moi. J'ai commencé à m'exprimer avec des images. Je sens que j'existe quand je filme.
Cette vie qui était là, personne ne la connaissait. Personne ne la connaissait à part nous. Donc j'ai dit, OK, pour immortaliser cette vie, il va falloir que je m'engage à filmer beaucoup, beaucoup, à filmer le quotidien d'ici de Gorogo, à filmer notre quotidien, à filmer tout ce que je suis en train de faire, à filmer tout ce que mes frères vont faire, notre manière de manger, comment apporter de l'eau, comment prendre du bain, comment faire pour survivre à Gorogo. Donc, qu'est-ce qui m'a donné cette idée à montrer tous ces détails-là? Parce que j'étais ami avec la caméra, mais je n'avais pas dans l'idée que peut-être que cette chose-là serait une grande chose dans l'avenir. Non, mais quand même, j'avais une idée que peut-être qu'au moins 10 personnes ou 20 personnes allaient voir le film-là un jour. Donc, ils allaient se faire une idée de dire, OK, ces hommes ou ces personnes, ils viennent de ceci, ils viennent de là. Donc, c'est ça qu'ils ont fait pour rentrer ici. Il faut montrer ça à sa famille, il faut montrer ça à ses proches, qu'ils sachent que oui, c'est de là que tu es venu. Ces images, si tu as la chance de rentrer en Europe, ces images te rappellent des moments difficiles. Ces images te rappellent ce que tu as fait et dans quelles difficultés tu es passé pour rentrer en Europe. Donc, pour ne jamais oublier d'où tu viens, il faut montrer.
Durant des décennies, mon pays a été exploité. Et maintenant que je veux venir en Europe, on m'empêche? Non, non, non. Ça ne va pas. J'ai le droit d'atteindre l'Europe. Vous ne pouvez pas tout nous prendre et ensuite nous exclure. Bien sûr, nous savons que le paradis ne commence pas derrière la barrière. Nous avons vu à la télé comment l'Europe traite les migrants. Et mon frère, il m'a téléphoné. Il dit que c'est la crise en Espagne. Mais quand je suis sur la montagne et que je regarde la barrière, je sais que sauter à nouveau serait très douloureux. Alors je dois croire que là-bas se trouve l'Eldorado. Pour ceux qui m'attendent à la barrière, il faut que cela soit vrai.
Il y a plusieurs raisons pourquoi on s'est embarqué dans ce projet. Moi, personnellement, j'ai une histoire personnelle. Alors, moi, je suis chilien d'origine, mais j'ai un père allemand qui est revenu en Allemagne quand j'étais très petit. Et la seule chose qu'il nous a laissé, c'était le passeport allemand. Alors, moi, quand j'avais 21 ans, je pouvais venir en Europe. Seulement parce que j'avais envie et parce que j'avais les passeports. À bout, il ne peut pas. C'est alors de la chance dans quel côté du grillage on est né. Et moi, ça, je trouve très injuste. Au début de 2014, on voyait dans les médias beaucoup des articles et des reportages sur des vagues, des migrants qui essayaient de traverser cette frontière terrestre, qui c'est une frontière très très spéciale parce que c'est la seule frontière terrestre entre la communauté européenne et l'Afrique. Et on était choqués par cette frontière qui est tellement brutale et vraiment il y a une violence institutionnalisée dans cette grillage. C'est une grille, justement ça. Clary, estoy en una entrevista. Ya, por favor, un momentito. Dame un momentito. Ya voy. Bueno, entonces voy a mi pieza. Dale, anda a la cocina con la mamá. Dale. Pardon. Ok. Alors, cette frontière, c'est une frontière que tous nous payons avec notre impôt. Quand Donald Trump, il parle de son mur entre les États-Unis et le Mexique, nous sommes tous, voilà, il est ridicule, ce connard. Mais en fait, on a une frontière justement comme les frontières qu'il, lui, il veut construire. C'est drôle, mais c'est notre réalité absurde. Et on était choqués par la frontière, mais en même temps, on était étonnés par la force et la résilience des migrants qui ont vécu des choses qu'on ne peut même pas imaginer et qui habitent dans une pauvreté extrême là sur la montagne. Et en même temps, eux, ils essayent encore une fois et encore une fois et encore une fois. Et il y a une détermination qui c'est vraiment, c'est une force tellement humaine qu'on avait envie de faire un hommage à ça.
Melilla, c'est notre grand amour. Melilla, l'Europe en terre d'Afrique. Chaque jour, je vois mon futur en face de moi, mais je n'arrive pas à l'attraper.
C'est pas un film tellement activiste, mais c'est un film beaucoup plus humain. Et je crois que ça parle vraiment à tout le monde. Et il y a des scènes où on peut vraiment s'identifier avec eux. Par exemple, une scène où Abou et ses amis regardent la ville de Melilla dans la couche de soleil. C'est un peu kitsch et beau. Et Abou, il sort son téléphone portable et il le met à côté de la caméra et on entend comment il prend une chanson. Et c'est Whitney Houston qui chante « I will always love you ». On pourrait jamais utiliser cette chanson dans un film sans que ça devienne vraiment kitsch, horrible. Mais parce que c'est lui, ça marche très très bien. Et en plus, moi j'aime pas cette chanson, mais ma mère, elle adorait cette chanson. Alors, il y a une pointe des rencontres, des identifications. En fait, on est très égal. On écoute les mêmes musiques, on voit les mêmes films. Et la seule chose que c'est différent, c'est la couleur des peaux. Et si je demande à ma petite-fille, elle voit même pas ça. Alors, c'est ça. S'il y a une leçon ou s'il y a un message, c'est vraiment de dire. Et il n'y a pas une telle différence comme il y a des gens qui disent. Non, il n'y a pas cette différence entre eux et nous. On est des humains et c'est vraiment la famille humaine. Et nous sommes en train d'exclure notre frère de l'endroit où on vivons.
Le film Les Sauteurs est à voir au cinéma en France. Il est signé Maurice Sieber et Stéphane Wagner et Aboubacar Sidibé. Aboubacar qui vit aujourd'hui en Allemagne et attend l'obtention d'un statut de réfugié pour continuer son aventure cinématographique. Il travaille sur les fantasmes et la réalité de la vie de migrants en Europe. Et nous restons d'ailleurs en Europe dans la seconde partie de l'émission pour parler de frontières, de migrants et de démission de l'Union européenne, une démission matérielle et morale. Vous écoutez l'Atelier des médias et vous êtes sur RFI.
l'idée, c'est que quand tu me dis que tu veux que je te raconte toute cette histoire, c'est même la genèse du projet ou l'histoire de cette route ?
La genèse du projet. Oui, Samuel Bollendorf, je veux savoir ce qui a donné naissance à ce projet de photographie et de film au titre Empreint de tristesse. La nuit tombe sur l'Europe.
La nuit tombe sur l'Europe. Ici, en face des côtes grecques, sur une falaise turque, je vois une de ces maisons dont la construction ne semble jamais devoir se terminer. Sur le sol en béton, quelques traces. Carton, coussin.
Couverture, couches usagées, pulls d'enfants, briques de lait vide. Des traces de vie qui racontent l'attente de femmes, d'enfants et d'hommes traumatisés par la guerre, épuisés par l'exil mais guidés par l'espoir du refuge en Europe. La nuit tombe sur l'Europe et c'est l'heure des passeurs.
Je voudrais pas que ça puisse passer pour un titre anti-européen et pour moi c'est un mélange de quelque chose de très concret, hein, de cette nuit qui tombe sur l'Europe, dont j'étais témoin et qui me faisait repenser à tous ceux qui ont tenté la nuit d'emprunter des routes clandestines pour trouver en Europe un refuge. C'est évidemment la nuit qui tombe sur l'Europe quand elle n'est pas capable de les recueillir et de leur apporter cette protection. Et il y a quelque chose là de la peur d'un réveil un matin brun, quoi. Il y a quelque chose de ce danger qu'on ressent tous.
Samuel Bollendorf est photojournaliste. Depuis une petite dizaine d'années, son travail explore de nouvelles formes de narration. Nous l'avons reçu plusieurs fois dans l'atelier pour parler notamment de ses web-documentaires, dont le tout dernier, Le Grand Incendie, qui raconte le parcours d'hommes et de femmes qui se sont immolés par le feu en France pour se faire entendre. Son nouveau projet s'intitule donc « La nuit tombe sur l'Europe ».
En fait, je crois qu'il y a deux choses, il y a deux éléments qui ont donné ce projet. La première chose, c'est que j'avais fait un gros travail sur les immolations, dont on s'était d'ailleurs parlé au moment du prix du documentaire. Mais ensuite, j'avais continué avec une série de photographies, y compris à l'étranger. C'était pas que les immolations en France, et c'était des lieux vides. Et c'était vraiment ça le principe. L'idée étant que à partir du moment où on avait déjà été impressionné par une image d'une immolation, c'était pas la peine de chercher à la remontrer, parce que au contraire, en ne montrant rien, on permettait à celui qui regardait l'image et qui évidemment lisait l'histoire de se figurer l'horreur, quoi. Et donc j'avais fait tout ce travail photographique et d'enquête qu'on avait montré à la galerie Agnès B. Et j'étais en train de faire cette exposition quand j'ai rencontré quelqu'un chez Amnesty International qui est Pauline David, avec qui j'avais déjà travaillé pour un livre que j'avais fait sur la Chine et qui me parlait des violences faites aux femmes plus précisément, puisqu'elle sortait un rapport là-dessus tout au long de leur route, sur la route des Balkans, donc les violences faites aux femmes réfugiées. La deuxième chose donc, c'est que j'avais pas prévu de travailler sur ce sujet parce que j'avais l'impression que il y avait déjà des centaines de photographes et de journalistes qui avaient couvert cette route des Balkans, enfin, hein, puisque là on était vraiment au moment du pic de l'exode des Syriens notamment, où j'avais l'impression que ces images n'opéraient plus, qu'on avait beau voir des foules de gens qui fuyaient l'horreur de ces naufrages, de ces gens gazés par les douanes hongroises, des barbelés, des campements absolument insalubres dans lesquels les gens étaient maintenus dans l'attente. Je me disais, mais ça a été traité, ça sert à rien que j'aille faire les mêmes images, quoi. Et en même temps, il y avait évidemment cette question de ben, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Et je pense que c'est vraiment ça, cette question qui m'a animé, c'était quand on est citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai des amis qui habitent près d'endroits où il y a des tentes, plus près de la Chapelle ou des choses comme ça.
La Chapelle à Paris. Hein.
Pardon, oui, du métro La Chapelle à Paris, qui peuvent me raconter qu'ils ont été donner des couches, d'autres qui donnent des cours de français, etc. Mais ces réactions individuelles, elles sont évidemment fondamentales et nécessaires, mais elles sont aussi, malheureusement, à chaque fois, l'illustration des manquements de nos politiques et de nos institutions, quoi. Et finalement, on aura beau avoir des réactions individuelles, ça ne change malheureusement pas le problème qui, lui, doit être résolu par une réponse politique forte. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? Et donc, finalement, je me suis dit, mais en fait, pourquoi ne pas essayer de travailler justement sur cette question de ces images qui ne sont plus reçues, quoi. On a beau voir et être abreuvé d'images de bateaux surbondés au milieu de la Méditerranée qui font naufrage. On l'a vu avec les images du petit Aylan qu'on a retrouvé mort sur une plage turque il y a un an et demi. C'est des images qui parfois réussissent à émouvoir quelques semaines et puis qui à nouveau sont balayées par l'actualité, par des attentats qui réalimentent tout un fantasme sécuritaire quant aux djihadistes qui pourraient éventuellement se cacher parmi les milliers, les centaines de milliers de gens qui fuient et qui produisent des amalgames. Et donc je me suis dit, il ne faut pas montrer les gens, c'est pas la peine, on les a vus, on a vu ces images, c'est un peu comme les immolations, il y a un préalable d'images qui a de toute façon opéré, qui n'opère plus, mais comment essayer de faire en sorte pour que on réaffecte, on resensibilise une opinion publique à ses destins individuels, quoi. Parce que c'est un à un, c'est des hommes, des femmes, des enfants qui vivent des drames terribles, des histoires de vie qui basculent, dont peut-être ils ne se remettront pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive plus à remettre sur l'ouvrage médiatique, si je puis dire. Et donc, je me suis demandé si peut-être que la formule, la forme que j'avais trouvée autour des immolations, c'est-à-dire ces lieux vides avec les récits, les textes, etc., c'était pas une forme qui pourrait opérer à nouveau. Donc j'ai proposé ça à Amnesty, qui a été formidable, qui a produit donc toute l'enquête, qui m'a permis de faire ce travail. D'abord de digestion, de rapports et de rapports d'Amnesty, de Médecins du Monde, de l'UNICEF, d'MDM, de Human Rights Watch, de lecture de aussi de tout ce qui avait été fait par les journalistes sur le terrain, etc., pour pouvoir identifier les lieux et retourner à mon tour sur ces lieux qui parfois étaient aujourd'hui vide parce que des frontières avaient été ouvertes ou parce que ou malheureusement fermées et que du coup il n'y avait plus personne à ce moment-là, mais l'idée n'était pas d'aller emmerder les gens en leur demandant de raconter une énième fois leur drame puisqu'ils avaient été racontés. Donc évidemment que j'ai rencontré des réfugiés et des gens qui travaillaient auprès d'eux, mais c'était pas ça l'enjeu le plus important. C'était de pouvoir revenir sur des lieux forts qui avaient été des scènes de drame, quoi, que nous avions vues. Et vraiment, pour moi, l'idée, c'était de travailler sur ce que nous avions déjà reçu. C'est-à-dire de travailler sur des lieux qui ont été traités par des journalistes, des images, des lieux qui ont produit des images, puisque c'est d'essayer de convoquer ces images à la manière d'une espèce de persistance rétinienne, quoi. De se dire, si je montre le lieu vide de la plage du petit Aylan, et qu'à côté, je mets le texte de l'histoire du père qui raconte comment ça s'est passé quand ils étaient au milieu de la mer, il n'y a pas besoin de montrer plus. Au contraire, c'est justement laisser le champ pour que chacun puisse se souvenir de ces images et se souvenir de ces images d'horreur. Donc, c'est pas moi qui produis les images d'horreur. Moi, j'essaye juste de les rappeler, quoi. Voilà, c'est ça le postulat de ce travail, c'est de ne montrer que des lieux vides, évidemment, toujours associés à des textes qui reprennent des témoignages, des éléments factuels tirés de toute cette enquête que j'ai menée et qui tente d'essayer de redonner à tous ces exilés et ces enfants, ces femmes, ces hommes qui ont fui leur pays, la force de ce qu'ils ont vécu et de le redonner à entendre, quoi. Voilà, c'est ça le projet. Et donc, pour finir sur cette première présentation, on s'est dit, il ne faut pas présenter ce travail dans un lieu d'exposition classique, d'un lieu institutionnel de photographie ou quelque chose comme ça. Ça n'aurait pas de, enfin, ce serait très, très valeureux pour l'ego du photographe, mais ça n'aurait pas de sens d'aller montrer ça à des gens qui sont déjà convaincus. Et donc c'est pour ça qu'on a, on a choisi et on a demandé et proposé à la mairie de Paris de nous mettre à disposition cet espace qui est la canopée des Halles, qui est vraiment le hub parisien où se déversent les milliers de gens de toute l'Île-de-France qui viennent faire leurs courses, qui viennent bosser, etc. Et donc voilà, s'ils peuvent être confrontés à ces images, on n'aura pas tout perdu.
Ils sont partis au milieu du noir pour mettre leurs enfants à l'abri en Europe. Ils ont vendu leur maison, leur magasin, leur voiture. Ils ont tout vendu pour financer leur exil. Je pense à Saïd, qui a payé $10,000 pour traverser avec sa femme et ses 6 enfants. Le passeur avait garanti qu'il serait seul sur le bateau et lorsqu'il a découvert l'embarcation bondée, Saïd a protesté. Menacé par le fusil du passeur, il a fini par embarquer. Lorsque le canot a chaviré, il est le seul à avoir survécu. Sa femme et ses enfants sont morts noyés. La nuit dans la mer Égée.
Il y a un autre élément qui est un film que j'ai tourné toujours autour de la mer Égée. C'était évidemment lourd. Hein. C'était lourd d'avoir évidemment digéré toutes ces histoires. Et j'étais autour de ce bras de mer là, entre Lesbos, Chios et la Turquie. Qui est un charnier, quoi. C'est 5000 morts l'année dernière. Et je me disais, mais comment rendre ça? Comment rendre cette espèce d'immensité, cette mer? On est en Grèce, j'étais là-bas au mois de juillet, il y avait quelque chose de c'est très beau, et en même temps, on ne peut pas imaginer se baigner, quoi. C'est terrible. Et je me posais beaucoup cette question. Et puis quand je me suis retrouvé de l'autre côté, en Turquie, j'étais près d'une de ces maisons abandonnées ou qui semble jamais devoir se terminer, enfin, cette espèce de maison en béton vide, dans laquelle il y avait des restes, des couches usagées, des briques de lait vides, des pulls d'enfants, des morceaux de carton sur lesquels les gens avaient dormi. C'était vraiment un lieu où les réfugiés attendaient des passeurs, quoi. Et en contrebas, c'était en haut d'une falaise, en contrebas d'un sentier, au milieu des rochers, des gros rochers avec le ressac de la mer. Enfin, c'est pas du tout un endroit où on embarque sur un canot pneumatique et encore moins sur bondé. On imagine ça la nuit. Enfin, c'est terrible, quoi. Et j'étais là et la mer, le soleil était déjà passé derrière l'île grecque en face, qui est à 7 km à peine. Donc, c'est vraiment juste en face. Et la nuit tombait et je me suis dit, mais en fait, il faut faire un film. Il faut faire juste un plan fixe qui est juste la nuit qui tombe sur l'Europe, là, juste en face. Et c'est comme ça qu'est venu le titre de cette exposition et du film. Et d'avoir juste ce plan fixe qui produise une situation d'écoute, encore une fois, et qui permette de se refigurer ce que vont vivre ceux qui tentent cette traversée, la façon dont ils vont être accueillis par les autorités européennes, la façon dont ils vont voir les frontières se fermer une à une, les barbelés se dresser devant eux, les gaz lacrymogènes des polices hongroises ou de la police française s'abattre sur eux, etc. Et donc c'est tout un texte qui reprend finalement toute cette enquête et pour lequel j'ai demandé à Catherine Deneuve si elle était d'accord pour le lire, et elle a accepté, parce qu'elle soutient Amnesty depuis une vingtaine d'années, et elle fait des projets comme ça avec eux depuis longtemps. Ce film est projeté en boucle dans une petite salle de projection qu'on a construite sous la canopée. Et évidemment, l'idée, c'est qu'il soit diffusé le plus largement possible. Il est en accès disponible sur tous les sites de presse qui le souhaitent, les blogs, les relais. On a travaillé aussi avec le réseau Canopée, qui n'a rien à voir avec la canopée, mais qui est l'ancien CNDP, donc avec l'éducation nationale, pour essayer de faire en sorte que ce film soit vu dans les écoles. Enfin, voilà, l'idée, c'est d'essayer d'être, encore une fois, le plus viral possible pour que cet engagement de Catherine Deneuve soit entendu le plus largement possible.
Heureusement, certains atteignent les côtes. Pour les accueillir et les enregistrer, l'Union européenne a organisé des camps administratifs, des hotspots. Plus d'un million de personnes ont demandé refuge à l'Europe en 2015. Une envergure qui rappelle la Seconde Guerre mondiale. Face à cette urgence, ces gouvernements érigent l'Europe en forteresse. Et ils transforment la mer en charnier. Le déshonneur est tombé sur l'Europe. La nuit tombe sur l'île de Lesbos et sur le champ de Katotritos transformé en cimetière. Ici, des monticules de terre et une litanie de plaques funéraires sonnent le glas de l'exil et la fin de l'espoir. 25 août 2015, pas de nom. 4 septembre 2015, pas de nom. 9 septembre 2015, pas de nom. 30 septembre 2015, pas de nom, un bébé. 30 septembre 2015, pas de nom, toute une famille. 13 octobre 2015, beaucoup de bébés. Les morts sont les seuls exilés qui restent à Katotritos. Les rescapés doivent poursuivre leur voyage. Je pense à Cham, dont le fils et le mari sont morts noyés lors de la traversée. Cham n'a pas pu rester un jour de plus pour les enterrer. Le groupe avec lequel elle voyageait reprenait la route. Rester seul aurait été trop dangereux. Je pense à Cham, repartie encore, en laissant ceux qu'elle aimait derrière elle, couchés sous une terre inconnue.
Vous écoutez l'Atelier des médias. Nous sommes cette semaine avec Samuel Bollendorf pour son projet « La nuit tombe sur l'Europe ». Des photographies, un film et un journal qui reviennent sur le parcours des réfugiés et des migrants aux frontières de l'Europe. Samuel retourne sur des lieux emblématiques des migrations récentes et les photographies telles qu'ils sont aujourd'hui.
Une des images qui a guidé... qui a déclenché cette réflexion, c'était l'image de d'Aylan. J'avais pour projet d'aller sur la plage où on avait retrouvé Aylan et faire cette image où évidemment il n'y avait plus rien, l'image du petit matin quand on l'a retrouvé, mais sans lui, puisque cette image a de toute façon été vue, quoi. Enfin, je pense qu'on peut partir de ce postulat que les spectateurs ont revu cette image. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer par la Turquie. Il se trouve que j'ai commencé par la Turquie, mais j'ai commencé par les îles grecques en face. Finalement, j'ai réalisé cette image à la fin du voyage, en même temps que le film, d'ailleurs. Mais du coup, je me suis retrouvé devant ce que l'Europe a mis en place comme camps d'enregistrement qui, parfois, se sont transformés en camps de rétention, c'est-à-dire les hotspots à Moria... donc à Lesbos ou à Chios. Je me suis fait systématiquement arrêter par la police grecque qui refusait tout accès aux journalistes que j'étais, qui refusait même que je fasse des images, hein, en me disant même qu'il n'y avait pas de liberté de la presse en Grèce. c'était déjà tendu, évidemment. Ceux qui étaient dans l'attente n'en pouvaient plus. C'était déjà après l'accord qu'il y a eu entre l'Europe et le gouvernement turc qui permettait donc de renvoyer ceux dont la demande d'asile ne serait pas satisfaite directement en Turquie. Donc il y avait moins de passages à cet endroit par la mer Égée. Et donc il y avait un peu moins de monde tout autour de l'île, mais les conditions... de vie dans les camps était non seulement insalubre, mais en plus mixte, c'est-à-dire que les femmes seules, les mineurs isolés se retrouvent dans des campements mélangés aux hommes seuls et on peut imaginer ne serait-ce que la peur que ça peut produire. En ferry, c'est 10 euros et ça prend 35 minutes, quoi. Si c'est pour enfermer les gens dans des camps en attendant de traiter leur dossier, pourquoi on les fait pas monter dans un ferry plutôt que de les condamner à traverser dans un canot pneumatique, quoi. C'est rien que ça, c'est ouvrir des routes sécurisées pour que les gens puissent accéder à leur demande, sans arriver de façon clandestine pour être ensuite recueilli et pris en charge officiellement. C'est à quoi ça rime que l'Europe refuse que les candidats à l'exil prennent un bateau pour pouvoir arriver jusque dans un camp de rétention, hein. Enfin, encore une fois, c'est des milliers de morts sur la conscience des institutions et des politiques. Et ça, c'est pas acceptable, quoi. C'est vraiment là que le projet européen... ne peut être que désavoué, c'est quand il n'est pas capable d'assurer un des fondements de ce que devrait être l'Europe, c'est-à-dire être capable de protéger les vies humaines. Voilà, c'est ça qui m'anime quand je fais un projet comme celui-là, c'est que c'est que pour nous tous, quand on doit y penser profondément, c'est honteux, c'est terrible, c'est quelque chose d'insupportable, quoi.
La nuit est tombée sur l'Europe, lorsqu'elle a transformé ses camps d'enregistrement en camps de rétention, lorsqu'elle a enfermé dans des prisons à ciel ouvert surpeuplées des hommes, des femmes et des enfants des semaines durant. J'entends encore les cris au travers des grillages. Guantanamo, Guantanamo, au secours, on est devenus des cadavres. Après les traumatismes de la guerre, après l'angoisse de la fuite, l'insalubrité, la violence aussi, la peur de chaque instant pour les femmes seules, pour les enfants isolés. La nuit, certains se sont échappés, clandestins à nouveau dépendants des passeurs, corps et âme.
Cette route, c'est finalement plus qu'un portrait de réfugiés, puisqu'on ne les voit pas, c'est malheureusement un portrait de l'Europe. Ce ne sont que des paysages de l'Europe, ce ne sont que des lieux où l'Europe a montré combien elle apportait une réponse sécuritaire là où elle aurait dû apporter une réponse de protection, quoi. Donc ça peut être cette autoroute qui a été fermée au Danemark pour que les réfugiés la cheminent à pied alors qu'il y a 150 km pour aller du sud du pays jusqu'à la Suède, sachant qu'ils n'étaient pas les bienvenus au Danemark même et que le Danemark a voté la réquisition de leurs bijoux et de leurs richesses pour financer leur accueil. Ça peut être ce bout d'autoroute en Autriche dans lequel on a retrouvé un camion frigorifique abandonné avec 70 corps en décomposition parce que les réfugiés n'avaient plus d'air pour respirer et que le passeur a pris peur et a abandonné son camion. Ça peut être évidemment la boue et les excréments de Calais dans lesquels on a laissé pendant tant d'années ces réfugiés risquer leur vie en tentant de traverser vers l'Angleterre. C'est des endroits terribles. En menant cette enquête, donc, je me suis retrouvé en Grèce, en Hongrie, en Allemagne, ou même en Allemagne, évidemment que Merkel a été la seule exemplaire en termes de réponse humaine, mais la réponse des groupuscules fascistes a été terrible, avec des foyers brûlés, avec sous les applaudissements d'une part de la population, avec des réfugiés qui arrivent dans des villages d'accueil qui n'osent pas sortir de leur bus tellement les petits groupes fascistes les insultent. On a malheureusement vu ça en France aussi, hein. Enfin pas les bus, mais des lieux incendiés. Et puis en faisant cette enquête, je suis tombé donc sur un site de la CGT où il reprenait la lettre d'un conducteur de train qui conduit les shuttles de Calais à Douvres, donc sous le tunnel sous la Manche, et qui a écrit une lettre à sa direction qui est terrible. Et qui raconte sa peur quotidienne d'écraser encore et encore. Il a écrit cette lettre après qu'on ait retrouvé le corps d'un enfant de 14 ans, je crois, oui c'est ça, sur son train, et qui raconte sa peur de conduire, de renverser tous ces damnés de la terre, comme il dit, qui tentent de monter sur son train, qui agrippent un nouveau-né pour en essayant de sauter sur un wagon, et qui raconte le bruit des chocs et l'horreur de ce qu'il vit juste en étant conducteur de train au milieu de la police, des barbelés et de ces cadavres auxquels il est confronté au fil de son... juste parce qu'il fait son métier de conducteur, quoi. C'est terrible. Cette lettre, elle est bouleversante. Il finit en disant combien de blessés encore, combien de morts. Et c'est comme ça que Catherine Deneuve termine le film aussi. Et je pense que c'est ça la question qu'il faut qu'on pose à nos responsables. Et c'est cette question-là à laquelle il faut qu'on réponde, nous, en votant, par ailleurs. Parce que c'est pas pour rien qu'on fait cette exposition pendant les élections, évidemment.
Après la découverte du corps sans vie d'un enfant de 14 ans sur son train, un conducteur de la société Eurotunnel a écrit à sa direction. Dans sa lettre, il disait « Là, des barbelés, des policiers, des gendarmes, des chiens, mais plus aucun arbre. Un tableau de guerre. Nous avons peur. Peur de commencer, peur de finir, peur de conduire, peur du devant, peur de percuter, d'écraser, d'électrocuter, de réduire en bouillie un pauvre air, un déshérité, un maudit de la vie, un damné de la terre. On roule comme on peut. Non plus les yeux fixés sur les instruments de bord, mais sur les abords, sur la voie, sur les alentours, priant secrètement pour qu'il n'y ait pas un désespéré qui se jette sur le train. Voir surgir de jeunes migrants tirant par les bras des bébés pour grimper sur le train n'est pas facile à vivre. Voir des migrants sauter sur des trains en mouvement, rebondir dans tous les sens sans vous parler du bruit. Combien de blessés encore? Combien de morts?
C'était l'atelier des médias RFI signé Pierre Chaffanjon, Leslie Carretero, Constance Léon, Marie-Stéphanie Servos et Ziad Malouf, Camille Deloche. Et quant à elle, aux manettes de Mondoblog, toute l'équipe travaille en ce moment à la sélection des candidates, des candidats de la saison 6. Merci à Guillaume Lustig et à Mara Makoul pour leur appui. Salut à toutes et à tous. Pour nous écouter et nous réécouter, pensez podcast.